France Inter, il est 13h. Le journal Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, la mort de 13 militaires français dans un accident d'hélicoptère au Mali. Bilan extrêmement lourd, collision entre deux appareils lors d'une opération de combat antiterroriste. Les soldats venaient de Gap, de Pau, Vars et Saint-Christol. Emmanuel Macron salue avec le plus grand respect leur mémoire. L'actualité sociale, les étudiants appelés à manifester contre la précarité aujourd'hui sur les campus. La CGT demande au gouvernement de renoncer à la réforme des retraites à points. Et puis la grève continue, deuxième jour, à Radio France. Les médecins vont-ils accepter de s'affranchir du secret médical pour lutter contre les violences conjugales? C'est la proposition du gouvernement et ce sera la chronique santé de Daniel Messager. Dans ce journal encore, la Gironde, toujours en alerte orange aux inondations. Le bilan de l'épisode de pluie torrentielle ce week-end dans le sud-est est désormais de 5 morts et 2 personnes sont encore portées disparues. La consigne des bouteilles en plastique verra-t-elle le jour? Nouveau compromis proposé ce matin. Et puis le match aux 1000 vedettes Real PSG ce soir en football à Madrid en Ligue des Champions.
France Inter.
Depuis quand l'armée française n'avait-elle pas perdu autant d'hommes d'un coup? Il faut sans doute remonter 36 ans en arrière et à un attentat à Beyrouth en 1983. Lundi soir, dans le Sahel, au Mali, Afrique de l'Ouest, 13 militaires sont morts lors d'un accident d'hélicoptère. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Bruno.
Bertrand, que sait-on de cet accident ?
Eh bien, il s'est produit hier soir dans le Liptako, la zone des trois frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina. L'accident a eu lieu à proximité de Menaka, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière nigérienne, un secteur très enclavé où prospèrent les djihadistes. Selon l'état-major des armées à Paris, les deux hélicoptères se sont heurtés en vol à très basse altitude alors qu'ils participaient à une opération d'appui au commando de la force Barkhane. Ces troupes au sol étaient engagées contre des islamistes qui se déplaçaient à moto et dans des pick-up. Une patrouille de Mirage 2000 et d'hélicoptères avait été dépêchée sur place. C'est lors d'une manœuvre qu'un Cougar, un appareil chargé de coordonner les moyens mis en œuvre, a heurté vers 19h40 un hélicoptère d'attaque Tigre. Aucun des militaires à bord des deux engins n'a survécu.
Et le président Macron salue avec le plus grand respect la mémoire de ces 13 militaires, soutien le plus total à leurs camarades des armées françaises. Alors ces soldats tués, qui sont-ils? 6 officiers, 6 sous-officiers, un caporal chef. Béatrice Duguay, il venait de régiments basés à Gap, à Vars dans l'Isère, à Saint-Christol dans le Vaucluse, mais aussi de Pau, 5e régiment d'hélicoptères de combat, Béatrice.
C'est d'ailleurs ce régiment de l'armée de terre qui est le plus touché par ce drame. 7 soldats décédés, 3 capitaines, un brigadier chef, un adjudant chef et 2 lieutenants, parmi lesquels Pierre Bockel, le fils de Jean-Marie Bockel, ancien ministre et ancien maire de Mulhouse. Ce régiment qui vient d'assortir sa bannière Facebook d'une crête noire est omniprésent dans les opérations extérieures de l'armée française. 2009, l'Afghanistan, 2011 en Libye au cours de l'opération Harmattan, puis l'opération Serval au Mali en 2013 où il participe aux premières interventions. Logiquement, depuis 2014, le 5e RHC est engagé dans les opérations Barkhane, mais aussi Sangaris en République centrafricaine. Gravement endeuillé aussi aujourd'hui, le 4e régiment des chasseurs de Gap, 4 hommes ont perdu la vie. 80 militaires de ce régiment sont engagés au Mali depuis cet été pour sécuriser les villages et réagir en cas d'attaque. Un légionnaire parmi les 2 autres victimes engagé dans le 2e régiment étranger du génie de Saint-Christol, régiment qui a également une longue tradition d'intervention en opérations extérieures, Djibouti, Kosovo, Côte d'Ivoire, Afghanistan. Enfin, le dernier homme qui a succombé ce matin, est un sous-officier du 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars.
13 morts donc au total, ce sont évidemment les pertes les plus lourdes depuis le début de l'intervention française au Sahel. Bertrand Galichet, on vous retrouve. Rappelons avec vous en quoi consiste cette intervention depuis 2013.
C'est actuellement la plus importante opération extérieure française. Elle mobilise 4500 hommes pour lutter contre le djihadisme dans 5 pays, de la Mauritanie à l'ouest jusqu'au Tchad à l'est, une superficie qui représente quasiment celle de l'Europe. Barkhane dispose de 7 avions de chasse, d'une dizaine d'avions de transport, d'une vingtaine d'hélicoptères et de 260 blindés. L'engagement des militaires français et les moyens mis en œuvre ont permis de porter des coups très durs aux djihadistes qui pourtant continuent d'avancer partout. Au Mali, le fond du problème est politique. L'accord de paix signé à Alger en 2015 prise par le gouvernement malien et par plusieurs groupes rebelles, à l'exception des islamistes radicaux, prévoyait d'intégrer les insurgés dans les troupes régulières et de les faire participer à des patrouilles communes. Il envisageait aussi une forte décentralisation afin d'associer au pouvoir les populations locales. Tout cela ne fonctionne pas, trop de méfiance, de corruption, de pression religieuse. Et la pauvreté au Mali, comme au Burkina ou au Niger, facilite le recrutement de nouveaux djihadistes par les islamistes.
Sur Twitter, les mots de deux anciens présidents de la République, François Hollande, la France pleure aujourd'hui. Hommage aux 13 militaires morts alors qu'ils luttaient avec courage contre le terrorisme. Et puis Nicolas Sarkozy, notre nation tout entière doit être rassemblée pour témoigner admiration et gratitude à ces hommes d'exception. Les députés, la France insoumise, demandent au gouvernement d'ouvrir une discussion pour envisager les voies de sortie de la guerre au Mali. Voilà ce que l'on pouvait dire de cet accident hier soir. Donc, le gouvernement malien dit sa solidarité avec la France. C'est l'Europe entière qui est en deuil, car au Mali comme ailleurs, l'armée française défend l'honneur et la sécurité de l'Europe. C'est le commentaire du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Dans l'actualité internationale, encore un tremblement de terre en Albanie, 6,4. Le bilan provisoire est de 13 morts. À Hong Kong, il ne resterait plus qu'une seule personne retranchée sur le campus de l'université polytechnique. C'est ce qu'affirment les responsables de l'université qui ont exploré ces lieux où manifestants pro-démocratie et police se sont affrontés. En Grande-Bretagne, en pleine campagne électorale, le grand rabbin intervient très directement dans le débat. Il accuse Jeremy Corbyn, le dirigeant de la gauche, le Labour, de ne pas assez lutter contre l'antisémitisme dans son parti. Le 12 décembre, voter en conscience, ajoute Ephraim Irvis. En France, les syndicats étudiants appellent à manifester aujourd'hui sur les campus contre la précarité. Les chiffres des Restos du Cœur, qui entament aujourd'hui sa campagne d'hiver, leur donnent du grain à moudre. Plus de la moitié des bénéficiaires des restos l'année dernière, 51%, ont moins de 26 ans. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Quelles sont les revendications des syndicats étudiants et sur quoi le gouvernement est-il prêt à négocier, Sonia?
Alors la principale revendication est une augmentation des bourses de 20%, mais le gouvernement exclut tout geste dans ce sens. La ministre Frédéric Vidal a rappelé que les bourses avaient augmenté cette année, une hausse de 1% que les organisations étudiantes jugent totalement insuffisante. Les syndicats réclament aussi plus de logements en cité universitaire et un gel, voire une baisse des tarifs universitaires pour 2020. Pour l'instant, la ministre a simplement promis la création d'un numéro d'appel où les étudiants en difficulté pourraient se renseigner sur les aides d'urgence auxquelles ils ont droit. Chaque année, 15 millions d'euros ne sont pas utilisés, mais pour l'intersyndicale, cela ne suffira pas à répondre à la précarité étudiante. En réalité, deux logiques s'opposent. Les syndicats exigent des mesures immédiates. Le gouvernement, au contraire, vise le long terme et voudrait inclure les moins de 26 ans dans le futur revenu universel d'activité où les aides sociales seraient fusionnées, où les barèmes et les critères de bourse seraient revus. Mais ce projet ne devrait pas voir le jour avant 2022 ou 2023, un horizon beaucoup trop lointain pour les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui.
La mobilisation étudiante est et la journée de grève, bientôt contre la réforme des retraites, la CGT reçue ce matin à Matignon. À la sortie, l'appel de Philippe Martinez, la seule façon de renouer un dialogue serait de remettre les compteurs à zéro, dit le numéro 1 de la CGT, qu'on ne parle plus de la réforme à points et qu'on travaille à consolider notre système actuel qui est le meilleur au monde. L'actualité sociale, c'est aussi ce deuxième jour de grève à Radio France, à l'appel aujourd'hui de 4 syndicats. Grève contre un plan de suppression d'emplois via des départs volontaires sur 3 ans, 299 postes sur environ 4800 salariés à Radio France. Ce journal de 13h sera plus court que de coutume. Un département est encore en vigilance orange aux crues et inondations, la Gironde. C'est le cas donc aujourd'hui dans le sud-est. Deux personnes restent portées disparues après le déluge du week-end dernier. Les pluies ont fait 5 morts. Le corps du monsieur de 77 ans qui était recherché à Saint-Antonin-du-Var a été découvert ce matin. Une lourde responsabilité pourrait échoir aux médecins. Hier, le gouvernement présentait ses conclusions après le Grenelle des violences conjugales et parmi les pistes envisagées, il y a celle d'une levée partielle du secret médical. Le médecin qui aurait connaissance d'un cas flagrant de violence conjugale pourrait le signaler au procureur. La décision appartiendrait au docteur. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Votre chronique chaque mardi dans ce journal de 13h. Daniel, quelles sont les réactions dans le milieu médical?
Eh bien, elles sont partagées. Alors, il y a des médecins plutôt opposés qui demandent pourquoi présenter cette mesure comme une nouveauté, sachant qu'ils doivent déjà signaler lors d'une violence faite à un mineur ou à une personne vulnérable. Une femme battue est-elle une personne vulnérable? Oui, bien sûr, répond-il, c'est dans notre code de déontologie de l'extraire d'un danger. Mais, ajoute par exemple le docteur Gilles Lazimi, il est médecin généraliste en Seine-Saint-Denis et pionnier dans la lutte contre les violences faites aux femmes, si signalement à la justice il doit y avoir, il ne peut se faire qu'avec le consentement de la patiente. La relation avec le médecin est une relation de partenariat, ce n'est pas le médecin qui doit faire à la place d'eux. Le secret médical, le lever alors que la femme n'est pas prête, pourrait d'une part rompre la relation de confiance et culpabiliser cette femme. Ce serait lui faire comprendre qu'elle n'est pas capable de porter plainte seule et est un peu responsable de ce qu'elle subit.
Voilà pour les arguments de ceux qui sont réticents à une levée même partielle du secret médical. Daniel, quels sont les arguments de ceux qui sont pour la levée?
Eh bien, il y a par exemple le docteur Jai Sapog. Il est chirurgien et président de la Société de chirurgie réparatrice. Il dit que les chirurgiens reçoivent des femmes avec des lésions tellement importantes, fractures, plaies, brûlures, qu'ils doivent pouvoir appeler le procureur pour dire que cette femme a vraiment besoin d'une protection immédiate. Ce médecin ne comprend pas pourquoi pour des violences contre un enfant, il doit signaler, mais pour sa mère, il doit se taire. Quant au consentement de la femme, peuvent-ils s'en passer? Certains estiment qu'elles sont tellement sous emprise qu'il faut prendre la décision à leur place, car ne rien faire serait se rendre complice de cette violence.
Alors cela dit, aujourd'hui, les contours de la levée du secret médical sont encore flous.
Et c'est pour en parler que Marlène Schiappa reçoit aujourd'hui le président de l'Ordre des médecins. Ce matin, elle a déclaré que ce serait laissé à l'appréciation du médecin.
Comment lutter contre la pollution au plastique? Le projet de loi anti-gaspillage est examiné à l'Assemblée en commission pour l'instant. Et l'idée d'une consigne des bouteilles en plastique est loin de faire l'unanimité. Sandy Dauphin, le ministère de l'Environnement, propose aujourd'hui une énième solution de compromis.
Oui, Brune Poirson, pas question pour elle de renoncer à la consigne. Le principe, eh bien, vous achetez une bouteille en plastique quelques centimes de plus. Une fois consommée, vous la ramenez dans un automate pour récupérer la somme que vous aviez versée. La secrétaire d'État à la transition écologique a annoncé ce matin que le dispositif serait expérimenté dans des territoires volontaires avec, en 2023, le déploiement d'un dispositif plus large. L'association Amorce, qui représente les élus locaux, y voit un passage en force du ministère de l'Environnement. Elle est vent debout contre la consigne considérée comme une concurrence déloyale au bac jaune des mairies. La semaine dernière, lors de son congrès, l'association des maires de France pensait d'ailleurs et se réjouissait d'avoir obtenu l'abandon de la consigne. Du côté des associations comme Zero Waste, Zéro Déchet, qui soutiennent au contraire le principe d'une consigne plus large, on y voit plutôt une reculade puisque le dispositif est reporté à 2023. À quelques jours de l'examen de cette mesure à l'Assemblée nationale, le bras de fer continue donc entre les opposants et les partisans de la consigne des bouteilles en plastique.
Et cet examen en séance dans l'hémicycle, ce sera à partir du lundi 9 décembre. Un dernier mot pour vous parler de Star Wars, la guerre des étoiles ce soir à Madrid, en Ligue des champions de football. Le Real et le PSG, avec toutes leurs vedettes, s'affrontent à 21h. Autre match de gala à suivre. Juventus de Turin, Atlético Madrid. Et ce sera donc également à 21h. Voilà pour ce journal de 13h, plus court que de coutume, comme je vous l'avais dit. Très bonne journée à tous.